Art, culture et patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Le 10 mai dernier, nous apprenions le décès du maître verrier peintre mayennais Michel Soutra. Je vous propose de réentendre la deuxième partie d'une émission enregistrée en sa compagnie en mai 2018. C'était donc chez lui, à Cosselvivien. Michel Soutra, qui a œuvré dans une cinquantaine d'églises mayennaises.
J'ai travaillé pour les monuments historiques, déjà à Clermont. Ensuite, ça a été l'église d'Avenières. J'ai eu une certaine chance. On a démoli les bas-côtés de Saint-Fénéran, par exemple, pour y mettre des vitraux. On a démoli la sacristie de la basilique d'Avenières pour percer une grande fenêtre pour faire rentrer de la lumière dans la basilique. Alors là, à la basilique, c'est classé et j'ai fait un vitrail qui est, que certains penseront un peu un non-sens par rapport aux vitraux de Maxin Grand, qui, dans l'esprit de la basilique, me paraissent bien. Ils sont très colorés, ils sont patinés, ils sont mystérieux, mais l'église était complètement sombre. À Clermont, ce sont des vitreries. Ce ne sont pas des vitraux, ce sont des vitreries, c'est-à-dire quelquefois à répétition et uniquement en verre et plomb, sans aucune peinture, sans aucune patine. C'est le plomb qui fait le dessin. À Avenières, ce fameux directeur m'avait chargé de faire la verrière, de créer la verrière. J'avoue que ce n'était pas la voie normale et que les architectes de monuments historiques ont essayé de me faire lâcher prise. Mais je suis d'origine basque et assez entêté, et comme j'avais un ordre de service, j'ai créé une vitrerie, mais qui n'est pas à répétition, qui est entièrement dessinée à la main, dont le symbole est le chapelet, donc la Vierge Marie, et surtout la présence de l'eau qui coule. C'est très important. La première église de Laval a été créée au fil de l'eau. Il y avait un guet à Pritz. Il y a un énorme Saint-Christophe, un géant, à la porte de l'église. On va à Avenières, est devenu à Laval à la fin du 19e, et là, elle est au fil de l'eau, il y avait le guet et Saint-Christophe aussi, protecteur et porteur du Christ, près du portail. Donc, sur cette verrière, j'ai fait l'eau qui coule, le temps qui passe, le temps de la prière, le temps du rosaire. Qui dit prière, dit chapelet. Qui dit chapelet, les grains que l'on égrène et qui montent vers le ciel. Voilà l'explication de la verrière. C'est tout simple. Je ne fais pas de grands discours, c'est tout simple. C'est Madame Schmuck-Mollard qui m'a fait terminer, qui m'a fait faire le vitrail finalement. Donc il est dans le transept du son nord, oui. Il est très grand. Voilà, donc je suis très content de cette réalisation. Et la dernière en date, ça a été Saint-Vénérand. Je ne savais pas que j'allais faire Saint-Vénérand, parce qu'en tant que délégué de la commission d'art sacré, ben pendant des années, j'ai fait 10 ans. Et il fallait toujours aller voir l'état d'avancement, etc. Et je n'ai jamais été à l'art sacré pour avoir du travail ou pour mon propre... Je n'avais pas besoin de la commission pour ça. Ça se faisait... Si, je devais le soumettre quand même. Quand je faisais des réalisations, à l'époque, avant d'être de la commission, je soumettais... À l'époque, c'était le chanoine Picnard et je lui soumettais les projets des vitraux. Alors, le dernier, donc, ça a été avec l'architecte des monuments historiques. J'ai fait donc là un concours pour 2 grandes fenêtres qui avaient été démurées des transepts, accompagnant la crucifixion et l'arbre de Jessé. Sur un vitrail, c'est les prophètes, celui qui accompagne l'arbre de Jessé, et l'autre, le Christ en croix, c'est la grâce par le sang du Christ. Ce sont des thèmes, mais c'est abstrait. Je me suis inspiré des 2 vitraux pour avoir une coloration qui s'accorde avec les 2 très belles verrières. Là, c'était plus difficile. 4 petites fenêtres, les anges et les saints d'un côté et les rois et les prophètes de l'autre. Et alors, il y a une idée de mouvement qui va vers le cœur, tout en étant abstrait. Je n'ai pas fait de discours. Hein. On ne m'a même pas demandé de venir expliquer mes vitraux. Ils les ont choisis et j'ai eu le plaisir de travailler pour Saint-Vénérand. Oui. Comme ça intéressait bien l'architecte des monuments historiques de l'époque, elle m'a confié près de Mayenne, dans une petite chapelle qu'elle a entièrement restaurée où il y avait des fresques, Saint-Léonard. J'ai fait le vitrail. Là encore, en essayant de ne pas trop m'imposer par rapport à ces fresques, ce qu'il en reste, qui sont délicates. Et là, je me suis contenté de faire discrètement des petites bandes colorées pour accompagner cette chapelle qui est comme ça, au milieu des champs, et que personne n'ira voir, malheureusement.
Si, maintenant, il y a des ouvertures de visites pour les journées du patrimoine et autres. Oui, oui, oui. Monsieur Davy qui est venu faire des conférences sur les fresques, et du coup, on peut admirer votre vitrail. Oui.
Je vais vous citer maintenant la grande réalisation, celle d'une vie. Ça a été le travail d'une cathédrale pour le Japon. Ça a été un travail à quatre ou cinq mains. Les maquettes étaient de ma tante, qui, je vous l'ai dit, était artiste peintre, mais elle était âgée, elle avait l'âge que j'ai maintenant, donc elle ne pouvait plus faire ses vitraux. Elle m'a délégué son travail. C'est moi qui ai fait la réalisation, le dessin, mais en partant de ses maquettes. Et comme c'était un très gros chantier, c'est le maître verrier d'Angers qui les a fabriqués. Donc c'était à trois mains. Yvonne Soutra, Michel Rollo à l'époque. Et toutes les semaines, moi j'enseignais, je m'occupais encore de l'art sacré. J'enseignais et pendant deux jours, je filais à Angers pour peindre les vitraux. Parce qu'il a fallu que je les dessine. Je les ai dessinés ici, dans mon atelier. Et comme les fenêtres étaient très hautes, il a fallu que je les mette sur une des tours pour déployer les dessins. Alors, c'est toute une histoire. La cathédrale est une cathédrale neuve située dans le Kyushu, au sud du Japon, une grande ville qui s'appelle Fukuoka, qui fait 3 millions d'habitants. Il y a deux grosses villes, Fukuoka et Kitakyushu, qui devait recevoir la bombe atomique, qui est à côté. 3 millions d'habitants aussi. Comme il y avait des nuages sur la ville, le pilote de l'avion qui devait larguer la bombe, le Pentagone ou ceux qui le commandaient, lui ont dit « Bon ben, tu rebrousses chemin et tu balances la bombe sur la première ville que tu croises. » Et la première ville qu'il a rencontrée en rentrant vers son île, c'était Nagasaki, qui était la plus jolie ville et qui ne fait pas cette population, qui doit faire 200 000 habitants. Donc, cette création a été faite par Monseigneur Hirata, qui a donc fait appel à ma tante. Il se trouve que cet évêque a eu ses étés prêtes payés par un des voyants de Pontmain, un des Barbedettes. Et c'était fait Oblat de Marie Immaculée. Et les Oblats avaient des missions à travers le monde, et en particulier au Japon, parce qu'ils ont respecté un peu cette dévotion qu'avait instituée le père Guérin, l'abbé Guérin, du chapelet de Nagasaki, qui ferait réciter à ses petits, ceux qui venaient à la messe ou autre. Et pendant longtemps, on a vendu à Pontmain des chapelets rouges de Nagasaki. D'ailleurs, quand je suis allé à Nagasaki pour l'inauguration de la cathédrale et des vitraux, j'ai rapporté une cinquantaine de chapelets que j'ai offerts à l'évêque pour qu'il les distribue à ceux qui connaissaient. Donc voilà cette histoire des vitraux. Le thème, c'était le rosaire. Donc 15 verrières, 15 vitraux. Les plus petits faisaient 2 mètres de haut. Et les plus hauts, ça remontait en pointe, ça faisait peut-être 12 ou 13 mètres.
Un chantier énorme.
Ah oui, 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 c'était un très très gros chantier qui a demandé plusieurs années et que j'ai mené de pair avec ma tante d'une part, mais la malheureuse était en clinique, et puis avec Michel Rouleau.
Donc ça, c'est votre grande œuvre aussi. Mais sinon, vous avez toujours peint, dessiné. Et maintenant, vous ne pouvez plus faire de vitrail et vous continuez à peindre.
Tout tout pendant mon enseignement, j'ai fabriqué des vitraux. Et lorsqu'il fallait les cuire, je les menais à Angers parce que je n'avais pas de four. Mais j'ai continué à faire sur les 50 églises, un vitrail par-ci, un vitrail par-là, ou deux ou trois. Donc j'ai continué à travailler, et à Clermont aussi. Là, je n'avais pas de problème, j'avais mon atelier. Les demoiselles fournissaient le verre et le plomb, et moi, mon travail. C'était un beau deal, c'était très bien. Et le dernier vitrail a été posé au début de l'année dernière, dans la chapelle Saint-Yves, dans l'église abbatiale. Ça a été mon dernier vitrail, j'ai eu un mal fou, car j'avais perdu la main. En travaillant pour Clermont, j'ai perdu la main, je ne pouvais plus couper. Mais il faut dire qu'en vieillissant, j'ai une oreille qui n'entend plus, ou mal, et quand on coupe le verre, il y a le travail de la main, la position de la main, la manière de tenir le diamant, et on doit faire chanter le diamant sur le verre, sinon l'oreille. Et si on fait chanter le diamant sur le verre, on l'entend et le verre se détache tout seul. Il tranche pratiquement le verre. Mais si on le raye, on pourrait prendre un marteau, on n'obtient rien. Alors je ne pouvais plus, je ne peux plus couper le verre. Puis même manuellement, j'ai de l'arthrite dans les mains, la fabrication m'a posé problème. Alors je continue à peindre.
Vous faites des encres de Chine, des aquarelles, des huiles ?
Oh, l'encre de Chine, ça a commencé très, très, très tôt. Je devais avoir 7 ans et j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon père un livre qui devait venir de Chine ou du Japon sur des encres de Chine. Et c'était très beau. L'encre de Chine, tous les collégiens en ont trouvé comme on voulait. Les petites bouteilles coûtaient pas cher et je me suis mis à faire des paysages et des encres de Chine. La simple tâche d'encre qu'on guide, je trouvais ça merveilleux. J'en ai fait des montagnes, j'en ai fait des paysages, etc. Et pendant cela, j'apprenais pas mes leçons. Et puis, je me suis vite mis à l'aquarelle, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai accompagné ma tante, artiste peintre, dans ses travaux, ses réalisations, en particulier en Suisse. Et elle allait faire de l'aquarelle, parce qu'il y avait de très jolis sites. Et moi, je l'accompagnais, et avec ses conseils, je me suis mis à faire de l'aquarelle. Et ça ne m'a jamais quitté, et j'en fais toujours. Je suis peintre non figuratif, mais j'ai toujours un rapport avec la nature. Et par exemple, au bord de la mer, tous les ans, je fais une grande quantité d'aquarelles qui sont exposées, en général, par mon galériste à Paris, pendant un temps à Genève, et puis à La Baule, au Willan Gallery. Mais comme c'est abstrait, évidemment, les gens ont peut-être un peu plus de mal.
Bien sûr, Fidélité Mayenne, je suis toujours en compagnie du maître verrier Michel Soutra qui évoque pour nous ses réalisations dans une cinquantaine d'églises de la Mayenne et qui évoque aussi la technique du vitrail.
En préambule, je crois sincèrement qu'il faut beaucoup d'humilité. Si on peint, on n'a pas besoin de penser à l'humilité. Pour le vitrail, on travaille pour un lieu qui a existé avant moi ou avant le verrier qui va venir mettre son travail dans un édifice. Humilité, il faut donc tenir compte du lieu, il faut tenir compte de sa lumière, il faut tenir compte de son vocable, un tas de paramètres, et on vient s'installer, on va mettre une œuvre qui va perdurer ou pas perdurer, ça c'est pas très important. C'est très compliqué un vitrail, c'est très compliqué. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut faire. Si on fait comme à Clermont, puisque c'est vraiment le lieu emblématique qui m'a fait connaître, là, c'est à la fois, pour expliquer la technique, c'est le lieu le plus extraordinaire, parce qu'il date du XIIe siècle, c'est le plus merveilleux, parce qu'il est habité, parce qu'il y a une lumière quasi divine qui arrive quelquefois au coucher du soleil, et qui passe dans cette extraordinaire abbatiale, où j'ai dû mettre des vitraux. Ça a commencé par le bâtiment des convers. Là, c'était moins important pour moi. Là où c'est devenu très important, c'est de faire les grandes fenêtres de l'église. Et entre autres, les trois belles fenêtres trinitaires du chevet de l'église. D'abord, dans l'art cistercien, dans les églises, il y a un chevet plat. Et il est toujours trinitaire. Dans certaines églises, c'est trois. Ici, c'est 3, 2, 1, et j'ai varié le dessin trois fois. Alors, c'est simple. Il faut faire la maquette. Il faut faire la maquette au dixième de la réalisation. Alors déjà, ça, c'est assez long, parce que c'est du dessin pur. Il peut être inspiré d'art géométrique, d'entrelacs. C'est ce que j'ai fait à Clermont souvent. Motif à répétition. Deuxième étape, agrandir à la taille d'un panneau, la maquette. Là encore, il va falloir le faire avec la règle, le compas et à main levée. Toujours pour cette idée de répétition de cette vitrerie qu'on va recommencer et qui, par la répétition d'un motif central, va créer un rythme dans la fenêtre. Une fois que c'est fait, que ce dessin géométrique est fait, on en prend le calque. Le calque va permettre de dessiner la marge des plombs. La marge des plombs, c'est-à-dire ce qui va tenir les morceaux de verre, elle existe, c'est le dessin. Et c'est ce qui a donné son nom à ces vitreries cisterciennes, qu'on appelle cisterciennes, parce qu'il n'y a aucun artifice. C'est le dessin qui est fait qui est réalisé après en plomb. Donc il faut le dessiner, le refaire sur un calque et numéroter toutes les pièces qui seront dessous. Les numéroter pour au moins par série de pièces identiques. Alors on met des numéros, etc. On garde donc le calque qui va être le témoin de la fenêtre qui va être fabriquée, ou du panneau, disons, et on va faire ce qu'on appelle le calibrage. Car un vitrail se compose de verre coloré ou neutre et de plomb qui enchâsse le verre. Il est entouré de plomb pour tenir le tout. Mais ce plomb, il a une largeur et il faut en tenir compte quand on va couper le verre. Cette largeur, elle doit faire à peu près 2 mm. On découpe une feuille avec des ciseaux à trois lames et la lame centrale représente l'âme du plomb. Et puis on met tous les petits tas qui sont numérotés sur une table. Alors là, on peut en avoir l'ordre de 300 ou 400 pour un panneau.
Oui, parce que le dessin du calque est reporté sur du papier assez épais, qui sera votre calibre, c'est ça?
Oui, un papier canson assez fort. Après, on passe à la coupe. On coupe le verre. Pour une vitrerie, comme à Clermont, ce sont des verres antiques qui coûtent fort cher parce que ce sont des verres soufflés.
Qui donnent une feuille de verre de quoi, 80 sur 80 ou...
Oui, à peu près, avec dedans des imperfections, des bulles, mais surtout des différences d'épaisseur. On peut avoir 1 mm, 2 mm et puis arriver presque à 2 cm sur les bords. Et quand elle est irrégulière, c'est très difficile. Ensuite, pour des vitreries comme à Clermont, on bat le verre, c'est-à-dire on bat les couleurs. Normalement, au Moyen-Âge, c'était du verre impur. Donc, ils prenaient des colorations suivant les oxydes, suivant les terres, les silex, enfin bref, tout ce qui se rend dans la composition du verre. Et lorsque j'ai travaillé ces vitreries, je prenais un verdâtre, un jaunâtre, un rosâtre, etc. Donc quelque chose de très peu teinté, et même du blanc. Et tout ça, ça donne du verre strié, du verre avec des bulles dedans. C'est un inconvénient, c'est cher. Et le verre de couleur est fabriqué exactement de la même manière. Il peut être aussi, au lieu d'être soufflé, placé sur un touré, c'est-à-dire une sorte de plaque circulaire, qu'on fait tourner à une certaine vitesse et la pâte va s'étendre et au centre, il y aura un nœud avec ce qu'on appelle une sieve. On découpe nos morceaux de verre, c'est très long, on les découpe au diamant, c'est très plaisant. Il y a des pièces qui sont difficiles, et c'est des pièces qui sont circulaires, avec un rentré dans l'autre sens. C'est la difficulté des vitraux cisterciens. Lorsqu'il y a des arrondis ou des figures géométriques ou même des motifs floraux, des fleurs de lys par exemple, ou des motifs de ce genre, c'est très difficile à couper, ça prend beaucoup de temps. Alors on passe des jours à découper pièce par pièce tout le vitrail. Au diamant, et maintenant il y en a qui coupent très bien avec la roulette, des roulettes au tungstène ou je ne sais pas à quoi, et bien, moi je ne peux plus couper. Dernière étape, sertissage dans du plomb, plus ou moins large. Il faut savoir que simplement la forme du plomb, c'est un double U avec une âme centrale. Donc l'âme centrale est assez épaisse, elle fait 2 ou 3 mm ou 2,5 mm. Et les ailes de plomb, c'est-à-dire la partie U, on rentre le verre dans le U. Et ça, c'est plus ou moins large.
Et les tiges de plomb sont souples, très souples. Est-ce qu'on peut les arrondir autour des pièces?
Ce sont des grandes rails de plomb qui peuvent aller jusqu'à 2,50 m. Pour le consolider un petit peu, lorsqu'on va l'utiliser, on bloque le bas de cette grande lame et on essaye de l'étirer encore davantage. Et puis, il faut l'ouvrir avec un outil qu'on appelle une tringlette. C'est tout simplement un gros couteau de charpentier limé et recourbé qui va permettre d'écarter les ailes de plomb. On travaille sur une table qui peut faire 2 mètres de long et 1 mètre 50 ou 1 mètre 20 de haut, car les panneaux de vitraux n'ont jamais plus de 80, 90. Et on place d'abord les plombs dans des règles qui sont conçues à l'équerre sur la table à monter, et on va enchâsser petit à petit dans les plombs de bordure qui sont emprisonnés dans des règles les différentes pièces. Alors là, c'est encore un nouveau travail qui est en général dans les ateliers par un spécialiste, un coupeur-monteur, celui qui coupe fait aussi le sertissage, c'est plus joli comme terme, il monte son panneau de vitrail. Or là, c'est très difficile parce que il faut pas s'enfermer, il faut bien disposer. Il y a une logique pour placer les morceaux et les faire tenir. Eh bien, bizarrement, ces morceaux de verre, on a un marteau et des pointes. Et on enserre les morceaux de verre dans le plomb en tapant dessus avec le dos d'un marteau en bois. Et on le serre avec des pointes, c'est pareil. Et on monte tout son panneau comme ça. Et ça peut être très long, suivant le dessin. Et à la fin, c'est la Munich de vérité. Il va falloir enfermer le vitrail avec du plomb, un plomb de bordure. On va serrer le vitrail pour le mettre aux mesures. Quand c'est fait, il va falloir rabattre tous les plombs et on soude soit à l'électricité, soit plutôt au gaz. Moi, j'employais un fer à souder au gaz avec une panne en cuivre. Il faut avoir une pierre stéarine pour que l'étain, la soudure, rentre plus facilement. Et quand c'est fait, on coupe les bords, on retourne le vitrail, on fait la même chose. Et puis, on termine le travail par un masticage, c'est-à-dire donner de l'étanchéité au vitrail. On prépare un mastic liquide à base de blanc de Paris, d'huile de lin et de cicatif. Et avec une brosse, une grosse brosse de peintre en bâtiment, on fait rentrer ça en frottant pendant 1 heure chaque côté du plomb pour faire rentrer ce mastic qui va sécher assez vite grâce au cicatif qu'on a mis dans la préparation. Voilà, c'est le gros du travail du verrier.
Nous avons vraiment fait toute une évocation de votre parcours d'artiste. Merci beaucoup, Michel Soutra, de cette intervention.
Je ne sais pas si je suis très très clair, mais je reste passionné.
C'était la deuxième partie de notre entretien avec le maître verrier et peintre mayennais Michel Soutra, enregistré en 2018. Michel Soutra qui nous a quittés le 10 mai 2022. Hommage à lui. Merci pour votre écoute.